Je présente maintenant Jean-Jacques Duby, notre conférencier de ce soir, qui va nous parler de l'enseignement des sciences. Il est né en 1940, il est ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de mathématiques. Son itinéraire est intéressant, je ne vais pas le donner en entier, mais je vais parler de différentes phases. Il a commencé par travailler au centre de recherche de IBM, de Thomas Watson, aux États-Unis. Et puis, il a fait une partie de sa carrière chez IBM, tout en étant en même temps en ayant des responsabilités d'enseignement. Ça, c'est la première phase, responsable de directeur du centre scientifique IBM de Grenoble, par exemple, directeur scientifique de la compagnie IBM de 86 à 88, etc. Ensuite, il a été, entre autres responsabilités, parce que j'abrège beaucoup, de 91 à 95, il a été directeur scientifique de l'Union des assurances de Paris, président du Conseil scientifique de l'Institut national de recherche sur l'environnement et les risques industriels. Et puis, depuis 1995, il est directeur général de l'École supérieure d'électricité et, à ce titre, je suppose, président de la commission recherche de la conférence des grandes écoles. Ses spécialités sont les mathématiques, la statistique, mais aussi l'enseignement et la diffusion des sciences, le management de la recherche et de l'innovation et les questions de gestion des risques. Il va donc nous parler pendant 50 minutes de l'enseignement des sciences, question d'actualité s'il en est, et ensuite il répondra à vos questions. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Michaud. Bonsoir à tous ici à Paris, bonsoir à Montpellier. Nous vivons aujourd'hui une époque formidable. Nous vivons de plus en plus vieux, l'espérance de vie augmente de 2 à 3 mois tous les ans, nous sommes toujours en meilleure santé, l'âge de morbidité recule même plus vite que l'âge de mortalité. Nous travaillons moins, 35 heures pour beaucoup d'entre nous maintenant. Le travail est de moins en moins pénible. Nous avons plus de loisirs. Les loisirs sont d'espèces tout à fait différentes. Multitude de moyens d'accès à la culture, la preuve ce soir, de transport, de communication, etc. Alors bien sûr, la médaille a ses revers, on peut penser à la pollution, aux impacts environnementaux, aux nouveaux risques technologiques, c'est sûr que lorsqu'il n'y avait pas d'avion, on ne risquait pas de mourir dans une catastrophe d'avion. Peut-être peut-on craindre un accroissement des inégalités, mais je crois qu'il ne fait aucun doute que aujourd'hui, les sociétés modernes vivent mieux qu'il y avait 50 ou 100 ans, et que cette amélioration est due, pour une très grande part, au progrès de la science et au progrès des techniques que la science a engendrées. Alors, ce nouveau paradigme de progrès social rapide, fondé sur le progrès scientifique qui engendre à son tour le progrès technique, ce nouveau paradigme a ses exigences. Il faut alimenter la machine. Et pour alimenter la machine, il y a trois espèces de carburant. Le premier carburant, c'est le carburant que j'appellerais les créateurs de sciences. Ce sont les scientifiques, les chercheurs qui font avancer les connaissances de manière générale et qui, de temps en temps, inventent un nouveau concept, une nouvelle méthode qui est une étape significative. Le deuxième carburant, c'est toujours de carburant humain, ce sont les utilisateurs de la science. Et les utilisateurs de la science, eh bien, ce sont en premier lieu les ingénieurs qui perfectionnent les technologies, qui en inventent de nouvelles, mais ce sont aussi les gestionnaires qui utilisent des méthodes scientifiques pour optimiser la production de biens et de services. Ce sont plus généralement les décideurs, qui sont censés savoir gérer la complexité et l'incertitude et qui utilisent des méthodes scientifiques de plus en plus sophistiquées comme les statistiques et la modélisation. Et plus généralement, ce sont tous les travailleurs, quelle que soit leur profession, eh bien, qu'ils doivent être capables, à qui l'on demande de plus en plus d'être capables d'analyser, de comprendre, de raisonner, de ne pas seulement répéter des gestes. La troisième combustible, c'est les citoyens éclairés. Parce que les progrès scientifiques nécessitent que la communauté des citoyens puisse, d'une part, contribuer au choix de la société, par exemple en matière d'énergie ou les OGM, enfin plus généralement toutes sortes de progrès scientifiques et techniques, mais également de plus en plus le citoyen doit être capable de prendre des décisions personnelles. Est-ce que c'est dangereux ou pas d'utiliser mon téléphone portable? À propos, éteignez le vôtre. Est-ce que c'est dangereux ou pas d'envoyer mon enfant à l'école si l'instituteur est séropositif? Enfin, c'est ce genre de décision qui, évidemment, ne se posait pas auparavant. Alors, c'est de ces trois besoins, le besoin qui sont apparus à cause du rôle du progrès scientifique et technique, c'est de ces trois besoins que je découlerai les trois objectifs que je souhaiterais fixer à l'enseignement des sciences. Le premier, former des scientifiques, des chercheurs, des spécialistes des disciplines. Bon, c'est l'objectif de l'enseignement de toute discipline depuis des millénaires, disons depuis les écoles de Pythagore, d'Euclide, en passant par les universités médiévales, transmettre les connaissances à la génération d'après en y apportant des nouvelles. Mais aujourd'hui, l'importance du rôle de la science dans la société fait que cet objectif de former des scientifiques n'est pas seulement l'objectif d'une communauté de spécialistes qui souhaitent se renouveler, éventuellement s'étendre, progresser, mais c'est devenu un impératif que je qualifierais même de géopolitique pour chaque pays. Le deuxième objectif, c'est de former des utilisateurs de la science. Alors, c'est un souci un peu plus récent, et la science, d'ailleurs, a été tout à fait leader dans ce domaine, puisque c'est la France du XVIIIe siècle qui avait ressenti le besoin de créer, bien sûr, on n'appelait pas encore des écoles d'ingénieurs, mais enfin, c'était des institutions spécialisées pour former les cadres techniques dont elle avait besoin pour développer son potentiel géostratégique, et c'est l'ancien régime qui a créé l'école des ponts et chaussées et l'école du génie, la révolution qui a ajouté l'école polytechnique et l'école normale supérieure dans l'espace de quelques années. Et je voudrais vous lire une citation de Monge en 1798, justement à propos de la création de l'école normale supérieure. Et c'est le vocabulaire date, mais le sens est d'une modernité étonnante, puisque Monge s'appuyait sur la nécessité de, ouvrez les guillemets, « tirer la nation française de la dépendance où elle a été de l'industrie étrangère ». Et pour cela, il préconisait de répandre la connaissance des machines qui ont pour objet ou de diminuer la main-d'œuvre ou de donner au résultat des travaux plus d'uniformité et plus de précision. Et ainsi, ajouta-t-il, les consommateurs devenus sensibles à l'exactitude pourront l'exiger dans les différents ouvrages et y mettre le prix nécessaire. Donc, il avait compris avec le vocabulaire de son temps, encore une fois, mais avec deux siècles d'avance, l'importance de la qualité pour la compétitivité industrielle, de la technique pour la productivité et la qualité, et bien sûr de la formation de spécialistes. Alors, aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de former une petite élite d'ingénieurs, de gestionnaires, de décideurs, de managers, mais il s'agit de former tous les travailleurs dans toutes les branches d'activité qui ont de plus en plus besoin de science. Les agriculteurs, aujourd'hui, utilisent des outils informatiques pour gérer leur exploitation et de la chimie pour doser leurs engrais NPK. Troisième objectif que je fixerai à l'enseignement scientifique, former les citoyens à comprendre les enjeux de la science. Les enjeux, c'est-à-dire les enjeux positifs, ce qu'on peut en attendre de retombées positives, mais aussi les risques éventuels. Également, juger ce qu'on peut demander à des scientifiques. Alors, c'est peut paraître paradoxal, on peut leur demander la Lune, les scientifiques qui ont envoyé l'homme dans la Lune, mais si on leur demande des certitudes, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, bien sûr, dans cette formation, il s'agit d'inculquer la culture générale scientifique de base, et aujourd'hui, ça n'est plus seulement l'arithmétique qui représente le minimum de ce qu'il faut savoir, mais il faut savoir et surtout comprendre pour pouvoir décider soi-même et participer au choix collectif. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et évidemment, comment le citoyen pourrait-il porter un jugement éclairé sur le nucléaire s'il ne sait pas ce qu'est la radioactivité ou s'il ignore qu'il existe une radioactivité naturelle. Alors, j'ai choisi aujourd'hui d'examiner l'enseignement des sciences, non pas en termes de connaissances, de niveau des connaissances, mais en fonction de ces trois objectifs. En fait, c'est bien évident que si l'on examine l'enseignement scientifique par le seul critère des connaissances transmises et acquises, eh bien, on conclut, comme mes anciens camarades de Baudelot et Establet, que le niveau monte. Et heureusement que le lycéen d'aujourd'hui sait des choses que son père ou son grand-père ignorait. Alors, bien sûr, les spécialistes de telle ou telle discipline pourront toujours dire, et je sais qu'il y en a de nombreux dans cette salle ou qui m'écoutent à Montpellier, les spécialistes pourront toujours dire il est scandaleux de donner le bac ou tel diplôme à quelqu'un qui ne sait pas ceci ou cela. Et d'ailleurs, les 10 spécialistes ne s'en font pas faute. J'ai connu un directeur des lycées et collèges qui aimait à raconter que une fois qu'il a eu quitté ses responsabilités, qui aimait à raconter qu'il a reçu plusieurs centaines de visiteurs venant lui demander de rajouter quelque chose au programme, et pendant les 3 ou 4 ans même qu'a duré son mandat, il n'a jamais vu qui que ce soit venir lui demander d'en enlever. Alors, ça n'est pas sur ce terrain que je veux me placer. Il s'agit de discussions de spécialistes, que je laisse aux spécialistes. Mais je voudrais examiner l'enseignement des sciences au regard de ses responsabilités sociales qui sont, encore une fois, devenues considérables de former des créateurs, des utilisateurs et des citoyens. Alors, malheureusement, quand j'examine les résultats de l'enseignement des sciences actuellement, à la lumière de ces trois objectifs, au regard de ces trois objectifs, eh bien, je suis bien obligé de constater qu'ils ne sont pas bons. L'appréciation, si je remettais ma casquette d'enseignant sur la tête, quoique je l'ai quittée malheureusement il y a déjà bien longtemps, serait insuffisant, doit mieux faire. Alors si vous permettez, pour porter ce jugement sévère, j'inverserai un petit peu l'ordre de mon exposé, je commencerai par l'objectif de culture générale scientifique. Alors, bien sûr, on dirait, comment peut-on mesurer la culture générale scientifique ? Je crois qu'il y a deux choses à mesurer. C'est, alors bien sûr, il y a les connaissances, mais je pense qu'il y a aussi les jugements, les attitudes vis-à-vis de la science, les échelles de valeur, comment la science est-elle placée dans les échelles de valeur de l'individu. De même que dans la culture générale littéraire, bon, bien sûr, il est important de savoir si quelqu'un connaît Racine ou Corneille, mais je crois qu'il est important aussi de savoir son attitude vis-à-vis de Racine et Corneille. Et s'il a quitté le lycée en jurant, c'est grandieux, de ne plus jamais lire une ligne de Racine ou de Corneille maintenant qu'il n'y était plus obligé, je pense que c'est aussi un critère à tenir, à prendre en compte. Alors, les connaissances, elles, sont jugées peuvent être bien sûr jugées par les tests scolaires, mais Je crois que les tests scolaires sont extrêmement liés au programme d'enseignement, à la façon d'enseigner, à la pédagogie. Et il est assez difficile de faire des comparaisons internationales. Surtout, je dirais que la France n'est parfois pas toujours très bien placée dans les comparaisons internationales. En 1996, l'OCDE avait lancé une grande étude comparative internationale sur l'enseignement scientifique dans plusieurs dizaines de pays. Je mentionnerai assez souvent cette étude dans mon exposé, parce que c'est la seule qui a été faite, au moins récemment. Et l'OCDE a effectué dans plusieurs pays un Science Achievement Score, un test de performance scientifique, à la fin du premier cycle du secondaire. Alors, la mesure, l'unité de mesure importe peu. Sachez seulement que la moyenne des pays est à 540, et la plupart des pays sont très regroupés autour de cette moyenne. Il y a quelques champions qui sont autour de 580, et qui sont le Japon, la Corée, la Tchécoslovaquie. Bon, vous suivez quand même. Et il y a quelques cancres autour de 500, la Belgique, le Portugal, la Grèce, le Danemark et, oui, la France. Bon, alors j'ai conclu que ce test n'était pas une bonne mesure. Et donc, je crois que les tests au moins plus significatifs pour l'objectif qu'on recherche, c'est les tests de ce que les Américains appellent « scientific literacy », pour lesquels je n'ai malheureusement pas trouvé d'expression française. Peut-être quelqu'un m'en donnera avant que j'aie à fournir le manuscrit à Yves Michaud. Mais disons qu'ils mesurent les capacités scientifiques en général. Alors, un pays a mesure depuis plus de 20 ans chaque année des indicateurs de scientific literacy. Ce pays, c'est les États-Unis, c'est la NSF, la National Science Foundation, qui mesure ces indicateurs tous les ans depuis 20 ans. Alors, évidemment, ça tient à la culture des États-Unis, qui est très marqué par les statistiques. Les petits Américains, dès le first grade, savent calculer leur batting average au baseball et la comparer à celle de Joe DiMaggio. Bien sûr aussi, ces indicateurs valent ce que valent les indicateurs. C'est comme la cote de popularité des hommes politiques. On ne sait pas très bien ce que ça mesure, mais on compare quand même entre personnalités politiques et d'une année à l'autre. Et comme tous ces indicateurs, ça a une valeur de comparaison. Alors, justement, en 1996, une des parties de l'étude de l'OCDE a été de mesurer ces indicateurs dans les 14 pays industrialisés, les mêmes indicateurs que la NSF, c'est-à-dire les États-Unis plus 13 pays industrialisés. Alors, les résultats ne sont pas brillants. On trouve qu'une moyenne de 10% de la population à une bonne compréhension des méthodes et des concepts scientifiques, 20 à 30% une compréhension partielle, le reste une compréhension nulle ou voisine de zéro. Bon, les chiffres n'ont pas beaucoup changé. En 99, il y a une stabilité assez remarquable. Dans cette étude de 96, la France était dans la moyenne avec l'Italie et les États-Unis. Au-dessus, on trouvait le Royaume-Uni, le Danemark et la Hollande. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de relation avec les scores scolaires. Et en dessous, l'Allemagne, la Belgique, ça, constante, l'Espagne, le Canada et, bon dernier, stupéfiant, le Japon, qui était tout à fait en pointe dans les systèmes scolaires. Alors, cette enquête multinationale n'a pas été renouvelée, mais Bon, les États-Unis, encore une fois, suivent cette enquête tous les ans. Et alors, je peux vous donner quelques indicateurs, parce que chacune enquête statistique s'est faite avec des questions. Et alors, les quelques indicateurs par lesquels ils mesurent cette compréhension, c'est fait très sérieusement chaque année sur un échantillon de 2000 personnes. L'échantillon significatif aux États-Unis, c'est 2000 personnes, comme c'est 1000 en France. Bon. Alors, ce qu'on trouve, c'est que 13% de la population, ça c'est les chiffres 99, 13% de la population sait ce que c'est qu'une molécule. Bon, ça veut dire que 87% ne savent pas. Plus stupéfiant, 16% sait ce que c'est qu'Internet. 70%, plus de 70% savent que la Terre tourne autour du Soleil et pas le contraire. Ça veut dire qu'il y en a un peu plus de 20% qui pensent, enfin, pas trop globalement. Mais, ça c'était la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est que moins de 50% sait que c'est en un an que ça se passe. Bien. Moins de 50% de la population sait que les hommes ne sont pas contemporains des dinosaures. Non, ça doit être à cause du film, ça. Il y en a une liste comme ça qui sont suivies, les mêmes questions qui sont posées tous les ans. Elles vont finir par se savoir, d'ailleurs. toujours est-il qu'en l'an 2000, c'est assez consternant, et je pense que, la France, ça serait intéressant de les poser en France. Alors, les deuxièmes questions, c'est aussi mesuré par les indicateurs de la NSF, c'est l'attitude par rapport à la science, positive ou négative. C'est mesuré, je vous dirai comment, mais alors l'étude de 96 a fait de l'OCDE a fait la même chose, mesuré les indicateurs NSF dans différents pays, et les États-Unis se distinguent par une attitude beaucoup plus positive par rapport à la science que tous les autres. 65% d'opinions favorables, 35% de défavorables. Enfin, c'est pas favorable, défavorable, mais enfin, d'opinions positives par rapport à l'opinion des réticences, des craintes, etc. Tous les autres pays, ou presque, se tiennent autour de la moyenne, qui est à 55-45, 55 favorables, 45 défavorables. Il y a trois pays un peu exceptionnels, le Portugal et la Grèce, qui sont à 50-50, et, surprise, le Japon, où il y a une majorité d'opinions défavorables. Peut-être une séquelle de la bombe atomique. Alors, ces comparaisons valent ce qu'elles valent, mais enfin, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que la vitalité actuelle de l'économie américaine n'est peut-être pas totalement indépendante de cette attitude vis-à-vis de la science et de la technologie. Alors, quelques questions, détail de quelques questions. Alors, je vous chiffre quelques les résultats du sondage NSF pour 2000. Exemple, les manipulations génétiques font plus de bien que de mal ou plus de mal que de bien. 44% plus de bien que de mal, 38% plus de mal que de bien. L'énergie nucléaire, 48% plus de bien que de mal, 37% plus de mal que de bien. Ça serait intéressant de poser les questions en France. Alors, ce qui est très curieux, et ça vous surprendra peut-être pas, mais j'y reviendrai un petit peu. C'est une différence qu'on retrouve assez souvent, et qui explique peut-être les différences de présence de filles parmi les scientifiques, c'est qu'il y a une très nette différence des attitudes vis-à-vis de la science selon le sexe. Manipulation génétique, les hommes 50% de favorables, 33% de défavorables, les femmes 38% de favorables, 42% de défavorables, majorité de défavorables. Énergie nucléaire, même chose, 59-34 pour les hommes, 39-40, quasi égalité, mais légèrement défavorable pour les femmes. Bon. Alors, si je regarde les résultats, pour la scientific literacy, c'est à mon avis franchement mauvais. Pour l'attitude face à la science, évidemment, il y a deux lectures possibles. On peut dire que l'ensemble, enfin au moins pour fichier des États-Unis, que l'enseignement de la science a échoué à communiquer l'enthousiasme qui était celui de la fin du XIXe siècle et qui a sans doute perduré jusqu'aux Trente Glorieuses. Ça, c'est un point de vue pessimiste, mais il y a aussi une autre interprétation optimiste qui est que l'enseignement des sciences a formé des citoyens plus critiques, plus sceptiques, plus vigilants, et c'est peut-être bien aussi. Par contre, quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer et que je crois, enfin, pour laquelle je n'ai pas vu d'explication, c'est la différence suivant les sexes. Alors, je serai un petit peu plus rapide sur les objectifs 2 et 3, c'est-à-dire la formation de créateurs de sciences, enfin d'utilisateurs de sciences pour 2 et le créateur de sciences. Je les regrouperai parce que là, le constat est sans appel. Aujourd'hui, l'enseignement des sciences ne répond pas aux besoins de la société en matière de flux de production de scientifiques. Alors, évidemment, vous allez me citer le fait qu'il y a des docteurs et sciences sans emploi, et donc on en formerait trop. Mais en fait, non. Pour moi, le fait que des scientifiques à un tel niveau de formation que le doctorat soit sans emploi indique qu'ils n'ont pas été formés d'une manière qui correspond aux besoins de l'industrie, de l'économie et du pays d'une manière générale. Le malheureux, c'est qu'eux ne sont pas responsables. Et le plus grave, c'est que alors que les besoins croissent, eh bien, on forme de moins en moins de scientifiques parce que les jeunes se détournent des carrières scientifiques. Alors, dans certains pays européens, l'évolution est absolument dramatique. Depuis le début des années 90, dans des pays comme l'Allemagne ou la plupart des pays de l'Europe de l'Est, on assiste à une réduction de 50, voire 70% dans les filières scientifiques qui ont été absolument asséchées. En France, l'évolution est plus récente, elle est moins marquée, mais elle est peut-être tout aussi inquiétante, parce que peut-être il ne faudrait pas que nous suivions avec quelques années de retard. Enfin, les chiffres, bon, vous les connaissez tous sans doute. Entre 1995 et 1999, c'est-à-dire sur 4 ans, alors que le nombre de bacheliers a cru de 2%, le nombre de bacheliers scientifiques a diminué de 8%. La proportion de bac S, qui était de 28% en 1995, est tombée à 25% en 1999. Le flux d'entrée dans les universités diminue entre 1995 et 1999 à cause, bien sûr, pour des raisons démographiques, mais le flux dans les DEUG scientifiques, lui, a chuté de 24%. Et le pourcentage d'entrée dans les filières scientifiques, qui était de 20% en 1995, est maintenant 16% seulement en 1999. Même la voie royale, pardonnez-moi, je demande pardon aux universitaires qui sont présents dans la salle, mais la voie royale à la française, que sont les classes préparatoires scientifiques, les diminue de 12% sur les 4 ans, et ce n'est pas pour des raisons démographiques, puisque c'est le-dessus de la pile, donc le dessus de la pile existe toujours, il suffit de descendre un petit peu plus bas. La filière cotée, enfin, à tort ou à raison, la plus cotée, qui est la filière MP, chute, elle, de 18%. Alors déjà, on trouve des filières de spécialistes qui sont en train de se tarir. Moi, j'en citerai une que je connais bien à Supélec, qui est la formation d'ingénieurs en génie nucléaire. Alors évidemment, ça se comprend peut-être, puisque bon, les jeunes lisent toute la journée que le nucléaire, c'est fini. Le problème, c'est qu'on a des centrales nucléaires qu'il faut toujours faire tourner, et si on n'a personne pour les faire tourner, il y aura des problèmes extrêmement sérieux. Bon. Pour moi, il ne fait aucun doute que le plus grand défi de l'enseignement scientifique à l'aube du XXIe siècle, c'est d'attirer davantage de jeunes. Alors pourtant, l'intérêt pour les sciences dans la population est élevé, la preuve. Vous êtes ici ce soir. Et même si ça peut paraître contradictoire avec un faible niveau de scientific literacy, les gens s'intéressent à la science. Alors, je reprends ma fameuse étude de l'OCDE en 1996. Dans la majorité des pays, 40 à 60% de la population déclare s'intéresser à la science et à la technologie. Et sur ces 40 à 60%, entre 10 et 20% déclarent un intérêt suivi. Alors, c'est vérifié, hein, l'enquêteur ne met pas indistinctement dans la case intérêt ou intérêt suivi. Les pays sont remarquablement groupés. Le Japon est encore une fois à la traîne, moins de 20% de personnes intéressées, moins de 2% d'intérêt suivi. Et la France, cocorico, est leader, 16% d'intérêt suivi. Beaucoup plus que tous les autres pays. Les Français, ben, je pense que c'est un peu dans la culture de notre pays, le siècle des Lumières, etc. Le Français s'intéresse à la science. Alors, bien évidemment, dans les chiffres de l'OCDE qui ont été sexués, on retrouve la différence homme-femme. 47% des hommes s'intéressent, 42% des femmes. 16% des hommes ont un intérêt suivi. 7% seulement des femmes, moins de moitié main. Bon, on pourra peut-être discuter tout à l'heure des explications. Alors, là encore une fois, si on passe au détail, comment cet intérêt se manifeste-t-il ? Bon, quelques statistiques amusantes. L'Américain moyen passe 20 heures par semaine devant sa télé, 8 heures par semaine à regarder des informations, bien informé. Plus surprenant, 3/4 d'heure par semaine à regarder une émission scientifique. Je ne sais pas combien c'est en France. Je pense et même 1 heure pour en moyenne pour les abonnés au câble, qui doivent recevoir plus d'émissions scientifiques. Et bien entendu, les hommes plus que les filles. Un chiffre surprenant, je ne sais pas ce qu'il est en France, 22% des Américains lisent un magazine scientifique au moins une fois par mois. Ça fait partie de l'intérêt suivi. Et bien sûr, 31% des hommes, 14% des femmes. Je ne le dirai plus. C'est... Bon. Alors, l'intérêt pour les sciences en France se manifeste par le succès de manifestations comme Science en Fête, la Nuit des Étoiles, l'Université de tous les savoirs. Les musées scientifiques, le Palais de la Découverte, mais pas seulement, il y a des musées scientifiques dans la France profonde. À Aurillac, il y a un musée de la volcanologie. À Marsonnay, il y a un musée de la foudre. Pardon aux Auvergnats qui sont dans la salle pour cette dénomination de France profonde. Mais enfin, c'est sûr que Marsonnay, c'est pas un endroit où on s'attendrait à voir un musée scientifique. Bon. L'audimat de la 5e. Autour de 4%, parfois 5, le succès d'émissions scientifiques comme Archimède sur Arte. Donc, avec un tel intérêt dans la population, la situation devrait être plus favorable. Alors, pourquoi les résultats ne sont-ils pas meilleurs sur le plan de l'enseignement scientifique ? Bon. Ben, c'est d'autant plus étonnant qu'il y a une centaine d'années, le système marchait très correctement, et même pendant des années après. Je pense que l'essor économique, industriel, scientifique, technique de la France, de la fin du 19e jusque, disons, aux 30 Glorieuses, doit beaucoup à l'école de Jules Ferry. L'école de Jules Ferry a su former des générations de travailleurs capable d'évoluer avec les progrès technologiques de l'époque, qui étaient peut-être moins rapides que maintenant, mais enfin, sur une vie, c'est quand même considérable. Et puis aussi, en même temps, de préparer et de sélectionner les meilleurs pour devenir les cadres scientifiques et techniques dont la société avait besoin. Alors, comment ça marchait ? Alors, je ne peux pas vous résister au plaisir de vous lire l'article 1er de la loi du 28 mars 1882, sur l'enseignement obligatoire, parce que c'est un texte tout à fait remarquable et instructif. D'abord, c'est écrit en bon français, c'était du temps où le législateur écrivait en français. Je le lis. Alors, quelquefois, ça date un petit peu. Article 1er, l'enseignement primaire comprend l'instruction morale et civique, ça, c'est un peu ringard, mais enfin, en numéro un surtout, la lecture et l'écriture, oui, la langue et les éléments de la littérature française, oui, la géographie, particulièrement celle de la France, l'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours, c'est le sentiment national, bon, ça aussi, ça fait peut-être un petit peu ringard maintenant, quelques notions usuelles de droit et d'économie politique, tiens, ça, c'est quelque chose qui a disparu. Le point important, les éléments des sciences naturelles, physiques et mathématiques, leur application à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers. Après, on continue, les éléments de dessin, du modelage et de la musique, la gymnastique, pardonnez-moi, pour les garçons, les exercices militaires, pour les filles, les travaux à l'aiguille. Bien, bon, il faut dépoussiérer un petit peu, mais je crois que le législateur de l'époque avait très bien vu que l'importance était non seulement d'enseigner la science, mais également d'enseigner son utilisation. Utilisation professionnelle, les métiers, utilisation personnelle, la santé, l'hygiène, pardon. Alors, si j'analyse ce qui a fait l'efficacité de l'école de Jules Ferry, bien sûr, il y avait le contexte de l'époque, c'est évident, mais moi je dirais qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est la leçon de choses, une merveilleuse leçon de choses. Leçon de choses, pas de leçon de physique, de chimie, non, leçon de choses. C'est vrai que la multidisciplinarité était certainement plus facile et plus naturelle à l'époque. Mais, finalement, cette merveilleuse leçon de choses, qu'est-ce qu'elle montrait ? Elle montrait que l'observation intelligente du monde qui nous entoure permettait de le comprendre, d'inférer les phénomènes, et que les phénomènes et les lois de la nature, lorsqu'ils étaient connus et compris, pouvaient être utilisés pour le progrès, améliorer le bien-être, etc. Autrement dit, encore une fois, l'école de Jules Ferry, et c'est ça une partie particulièrement importante, n'enseignait pas seulement la science comme une somme de connaissances, mais aussi la science comme un processus. Un processus de découverte, en montrant l'approche expérimentale de la science, d'ailleurs, elle montrait le métier de chercheur, en montrant l'utilisation des résultats de la science, elle montrait le métier d'ingénieur, et elle pouvait certainement susciter des vocations. Et elle permettait aussi aux citoyens, aux futurs citoyens, de mieux comprendre, et aux futurs travailleurs de mieux exercer leur métier. Ça, c'était le premier élément, la leçon de choses. Le deuxième élément, c'est vraiment de plus en plus ringard, j'en ai conscience, mais enfin, les ans en sont la cause. Je mettrai là-dedans l'iconographie républicaine. Les écoliers de l'époque connaissaient l'histoire, peut-être caricaturée, mais de Louis Pasteur, de Pierre et Marie Curie, enfin, pas immédiatement du temps de Ferry, un petit peu plus tard, pour Pierre et Marie Curie, de Bernard Palissy, qui brûlait ses meubles, Delambre et Méchain, qui partait mesurer le méridien terrestre. Et ce qui est important, je crois, c'est qu'on leur montrait ainsi la dimension sociale et la dimension humaine de la science. On leur montrait qu'il est possible, comme Louis Pasteur, de faire de la science sa vie, sa carrière. On leur montrait l'aspect passionnel de la recherche et de la science. Bernard Palissy, qui brûlait ses meubles. On leur montrait la dimension politique de la science. Delambre et Méchain, mandatés par la Convention. Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir à l'école de Jules Ferry, mais je crois qu'on peut s'en inspirer aujourd'hui dans le contexte scientifique du XXIe siècle pour répondre aux défis des besoins de la société. J'ai d'ailleurs été très heureux de voir que dans sa conférence de presse du 20 juin, où il annonçait la rénovation de l'enseignement des sciences à l'école élémentaire, le ministre Jack Lang a fait référence à la leçon de choses comme l'un des souvenirs heureux, je cite, de l'école. Je vois qu'on est je suis de la même génération que lui. Et il avait aussi cité, bien sûr, l'initiative de la main à la patte de Georges Charpak comme un effort très prometteur de modernisation de la leçon de choses. Alors bien sûr, la situation est plus difficile, car la somme des connaissances à acquérir s'est considérablement accrue en plus de 100 ans, et c'est ce qui a nécessité la disciplinarisation de l'enseignement, bien sûr inévitable, mais qui présente deux écueils que l'on n'a pas su toujours éviter, pardonnez-moi mes chers collègues si je heurte certains. Premier écueil, du corporatisme disciplinaire, chaque discipline cherchant à gonfler ses programmes pour augmenter ses horaires. Bien entendu, il s'agit des autres disciplines, pas de la nôtre. Je parle pour chacun. Et deuxièmement, le manque d'interdisciplinarité, enfin plus exactement, on introduit des cloisons entre les disciplines, alors que de plus en plus de problèmes scientifiques et techniques nécessitent l'appel à plusieurs disciplines pour être résolus. Tout le monde sait que les progrès en génétique n'ont été décisifs que lorsque les mathématiciens et les informaticiens ont commencé à s'intéresser aux problèmes du génome. Les entreprises, d'ailleurs, l'ont bien compris, qui ont une structuration orthogonale de leurs équipes de recherche et développement, une structuration verticale par discipline pour entretenir et développer les compétences, et une structuration horizontale par projet pour conjuguer les compétences, pour résoudre un problème et mener à bien le projet. Je dirais peut-être que, au risque de recevoir des tomates, l'enseignement, et d'ailleurs pas seulement l'enseignement scientifique, on est aujourd'hui un peu au stade de la doctrine économique du mercantilisme au XVIIe siècle, où on croyait que la seule raison de développer son industrie était de protéger son marché des industries extérieures et de l'accroître par des conquêtes territoriales. C'était la stratégie mercantiliste, c'était la stratégie de Colbert et de Louis XIV. Alors on sait aujourd'hui, bien sûr, que la bonne méthode est de multiplier les échanges entre les marchés nationaux. Bon, la plupart des industries françaises occupent aujourd'hui des parts du marché mondial qui sont bien plus importante que les quelques pourcents de notre marché national, et ça aurait été absolument impossible sans la libéralisation des échanges. Bien, je pense de même que, par une analogie, la meilleure manière de faire acquérir la maîtrise de l'outil informatique à l'école, ça n'est pas de prélever des heures d'informatique au détriment des maths, de la physique ou de l'histoire et géo, mais c'est que l'enseignement des maths, de la physique et de l'histoire et géo utilise l'outil informatique. C'est une opinion que j'ai défendue en sept ans qui m'a valu quelques inimitiés indéfectibles. Ce constat étant fait, alors peut-être sévère, j'en arrive maintenant à ma dernière partie, que peut-on faire pour que l'enseignement scientifique réponde mieux à ces trois objectifs ? Alors, il n'y a pas de promène miracle, ça se saurait, mais je voudrais proposer quelques directions, des pistes que je suis sûr vous aurez à cœur de critiquer dans quelques minutes. Le premier point, qui est fondamental à mes yeux, est de ne pas enseigner la science comme une somme de règles et d'énoncés à mémoriser, mais comme un moyen d'analyser, de comprendre, de découvrir, voire de réaliser. Plus précisément encore, il s'agit de ne plus enseigner la science uniquement comme une somme de connaissances, mais aussi comme un processus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors ça passe bien sûr par une revalorisation de l'expérimentation, qui est prônée depuis longtemps par Pierre-Gilles de Gennes ou Georges-Charles Pack. Un sujet, je peux quelques temps pour raconter une anecdote. Un enseignant de Supélec, qui est aussi examinateur au concours d'entrée, m'a raconté que lorsqu'il interroge un candidat à l'oral du concours d'entrée sur telle ou telle expérience, eh bien 9 fois sur 10, le jeune taupin est très fier et il sait, et il va au tableau et il s'empresse de remplir le tableau d'équations. Bon, ce n'est pas exactement l'expérience. Et le plus grave est que, trop souvent, les étudiants doivent attendre parfois le stage de DEA pour découvrir ce qu'est le processus réel de la recherche scientifique. Alors on comprend que, malheureusement, nombreux, de plus en plus nombreux, trop nombreux aujourd'hui sont ceux qui n'attendent pas jusque-là. Alors cela étant, bien sûr, il y a quand même des choses à apprendre. Alors j'ai dit que je ne rentrerai pas dans les programmes. Donc je n'y rentrerai pas, mais prétérition, je pense qu'il devrait peut-être être défini en privilégiant un savoir structuré par rapport à un savoir discret, isolé, une organisation des connaissances plutôt qu'une collection de connaissances, ça revient un petit peu à dire la même chose, et moins de sujets, en tout cas moins de sujets plus approfondis plutôt que plus de sujets traités superficiellement. Quitte d'ailleurs à développer la curiosité des élèves en les incitant à lire sur des sujets non traités en cours. C'est une lecture qui sera superficielle, bien sûr. Ils pourront éventuellement revenir poser des questions au professeur, mais après tout, n'est-ce pas ce qu'on fait en langue vivante ? Parce que les versions et les analyses grammaticales, on les fait sur quelques pages dans l'année. Mais en fait, le but de la manip, c'est que l'élève puisse lire des milliers de pages dans l'année et plus tard. Mon second point porte sur l'utilisation de la science qu'on enseigne. Aujourd'hui, il faut reconnaître l'utilisation la plus perceptible par l'élève, quand ce n'est pas la seule d'ailleurs, de l'enseignement dans une discipline, eh bien, c'est de résoudre les problèmes d'examen dans cette discipline. Et encore, ces problèmes sont-ils posés sous une forme canonique dont on ne s'écarte jamais trop, qui guide l'élève pas à pas et qui garantit que chacun de ses pas peut être franchi par l'application d'une recette qu'il doit connaître s'il a suffisamment bachoté. Alors je surprends toujours les élèves de première année de Supélec lorsque je fais mon discours de rentrée, comme c'est jamais les mêmes élèves, je veux toujours faire les mêmes astuces. Et il s'agit de taupins frais et moulus. Et je leur dis, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir à résoudre des problèmes pour lesquels il n'y a ni existence ni unicité de la solution. J'attends. Alors, il y a toujours 9 sur 10 qui roupillent. Mais il y en a quand même 10% qui écoutaient. Et j'assiste à un mouvement divers dans l'assistance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Où est-ce qu'on s'est fourré ? Un truc où il y a des problèmes, où il n'y a pas de solution, ou s'il y en a, il y en a plusieurs. J'aurais jamais dû choisir Supélec. De fait, très vite, en effet, bon, je vais faire un petit peu, pardonnez-moi, de pub pour mon école, mais parce que je pense que c'est une bonne école. Mais une fois rentré, beaucoup d'autres écoles d'ingénieurs aussi sont excellentes, pas toutes. Une fois rentré, on leur demande de, quoi ? Qu'est-ce qu'on leur demande ? On va leur demander de réaliser tel ou tel dispositif qui réponde à tel ou tel cahier des charges, c'est-à-dire ce qu'on va leur demander quand ils seront dans l'industrie. Mais charge à eux de choisir les outils, les techniques qu'ils vont utiliser, ceux qui semblent le mieux adaptés, ceux qu'on leur a appris à l'école, ceux qu'ils vont chercher dans la littérature, sur le web, ou alors qu'ils ont imaginé, qu'ils adaptent. Bon, vous reconnaissez là, bien sûr, la pédagogie de projet, qui cherche à développer chez les élèves des qualités qu'ils ont certainement, pour beaucoup d'ailleurs, mais qu'auparavant ils avaient, disons, peu d'occasion de valoriser, je pense à leur créativité, leur imagination, leur capacité d'innover, de réaliser, voire de prendre des risques. Bon, tout le monde dit dans les examens, les quincours, vaut mieux pas prendre de risques. Bon, après, quand on est ingénieur, il faut savoir prendre des risques. Alors, c'est des qualités dont on a besoin chez les ingénieurs, mais aussi chez tous les scientifiques. Et c'est des qualités, d'ailleurs, dont l'expression fait, disons, une très grande part de l'intérêt du métier. Alors, je suis bien conscient que c'est beaucoup plus facile à faire dans une école d'ingénieurs que, par exemple, dans un lycée. Mais enfin, je pense que il devrait être possible de montrer qu'il est possible d'utiliser les acquis d'une discipline dans une autre, à commencer par, par exemple, les mathématiques et l'informatique dans toutes les autres disciplines, et puis de donner des exemples, comme disait Jules Ferry, d'application aux arts industriels, à l'usage des outils des principaux métiers. Alors, j'ajouterais d'ailleurs qu'en ce qui concerne le contrôle des acquis, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que, bien sûr, on cite le contrôle des acquis pour expliquer ce genre de choses, peut-être faudrait-il évaluer, je suis prudent à ce que je dis, je lis, parce que j'ai pesé tous mes mots, évaluer moins systématiquement ce qui est facile à mesurer et plus souvent ce qu'il est important d'acquérir. Mon troisième point sera de montrer la dimension sociale de la science. Alors ça commence bien sûr par le travail en groupe, malheureusement qui est peut-être difficile à concilier avec le caractère individuel de l'élitisme républicain qui imprègne notre système éducatif. Difficile mais pas impossible puisque les choses sont en train de changer. Mais pour moi, il s'agit aussi et surtout de montrer la science comme la merveilleuse aventure humaine qu'elle est, à travers les dangers qu'elle a traversés, les risques qu'elle a courus, ses réussites, ses échecs, ses perspectives. Et cela à travers son histoire, celle des grandes révolutions scientifiques, des hommes qui les ont menées, Copernic, Newton, l'atome d'Aristote à Niels Bohr, la biologie de l'évolution, de Darwin à la biologie moléculaire, aux mutations génétiques, la tectonique des plaques, etc. Et là encore, je pense que la curiosité des élèves devrait être cultivée, mise à profit et cultivée. L'important, je crois, étant de faire comprendre deux choses. La première, c'est que le progrès des connaissances est inéluctable, il s'éteindra avec l'humanité, mais que c'est un processus qui n'est pas régulier, qui peut être long, conflictuel, douloureux, mais qui peut aussi connaître des fulgurances extraordinaires aux retombées considérables et que ce processus ne se commande pas. Et mon quatrième et avant-dernier point, parce que j'en aurai un cinquième, sera pour la dimension personnelle de la science. La science comme domaine d'épanouissement, de satisfaction, j'oserais dire de jouissance personnelle. La science comme terrain d'imagination, d'invention, d'expérimentation, oserais-je dire de jeu, d'aventure. La science comme domaine vierge à explorer, ouvert à toutes les curiosités. Bref, la science passion. Alors, il va sans dire que cet aspect de la science est malheureusement celui qui est le plus éloigné pour le potache moyen. Mais pourtant, encore une fois, la situation n'est pas désespérée. Et je regarde le succès des concours comme les Jeux mathématiques, des Olympiades de chimie, des opérations comme Matangin. Tout cela montre qu'il est possible de mettre en valeur ce que la pratique scientifique peut avoir d'hédoniste, osons le mot. Mais la science, c'est peut-être un jeu, mais c'est aussi une école de morale et d'éthique, où l'on apprend l'ouverture aux idées des autres, la tolérance, mais aussi où on développe son scepticisme et son sens critique. On écoute, mais on n'est pas forcé d'accepter. C'est aussi une école où on apprend l'humilité devant les faits, la gestion des incertitudes qui sont inévitables parce qu'on recule le domaine de l'incertitude, mais les limaces sont toujours là. Et c'est en ce sens, je crois, que l'enseignement, on peut dire que l'enseignement scientifique devrait contribuer aussi à l'instruction civique et morale, ajouterait Jules Ferry. Alors, bien entendu, pour chacun de ces points, l'enseignement scientifique ne saurait se cantonner à l'intérieur de l'école. Je sais que je prêche des convertis, et encore moins aujourd'hui avec l'explosion des médias, la presse scientifique, la télé, Internet. Il y aurait certainement Beaucoup de choses à dire sur les médias et la science, peut-être de quoi faire une séance de l'Université de Tous les Savoirs. Je me tourne vers Yves Michaud, je ne sais pas si c'est prévu ou si ça a déjà été fait. Il y aurait en tout cas beaucoup à dire. Pour moi, j'en dirais juste un mot. Je crois que beaucoup de choses, finalement, devraient rapprocher le journaliste et le scientifique. Leur mission est tous les deux la quête de la vérité, enfin d'une vérité. Ils sont animés par la curiosité, mais aussi l'esprit critique. Ils ont tous les deux une grande humilité devant les faits. Ils obéissent à une éthique très exigeante. La différence, évidemment, c'est que le journaliste a un rédacteur en chef et que le rédacteur-chef a un peu tendance à favoriser les articles qui favorisent le sensationnalisme, voire le catastrophisme, d'où les défauts, certains défauts que l'on constate par la couverture de faits scientifiques par les médias. Mais, comme dirait Kipling, ceci est une autre histoire. Avant de conclure, je voudrais lancer ma cinquième et dernière proposition. Je crois qu'il faudrait mettre en place en France, pour compléter les indicateurs scolaires qui ont été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, eh bien des indicateurs analogues à ceux de la NSF aux États-Unis. Alors, je ne sais pas s'il faut que ce soit les mêmes ou pas, mais je pense qu'on aurait ainsi un outil pour mesurer si l'enseignement des sciences progresse vers une réponse de plus en plus complète à ces trois objectifs sociaux. Alors, comme beaucoup d'activités humaines, je crois que la science marie la raison et la passion, ou comme l'a dit Poincaré, la logique et l'intuition. Mais ce qui rend la science particulièrement difficile est que les deux lui sont indispensables. Là encore, je citerai Poincaré, qui écrivait « La logique est l'instrument de la démonstration qui peut seul donner la certitude, mais l'intuition est l'instrument de l'invention. » Alors peut-être le problème de l'enseignement des sciences aujourd'hui est-il tout simplement qu'on y met peut-être trop de raison, trop de logique, trop de certitude, et pas assez d'incertitude, d'intuition et de passion. Je vous remercie de votre attention.
Bonjour, monsieur.
Tout en haut, hein.
J'aurais aimé savoir... quelle est, à votre avis, quelle modification dans les systèmes éducatifs et dans le métier d'éducateur va, à votre avis, apporter apporter les nouveaux médias considérés autrement que comme un simple dictionnaire?
Oui. Je crois que... On parle beaucoup de formation à distance, voire d'auto-formation à partir uniquement d'outils de nouvelles technologies. Je pense qu'il y a des cas où cela peut être possible, lorsqu'il s'agit d'acquérir purement des connaissances simples, voire... d'acquérir des automatismes, des simples techniques. Par contre, il est évident que s'il s'agit d'acquérir des notions, des concepts, voir la science comme un processus, comme intégré dans la société, je suis absolument persuadé que cela ne peut se faire que d'homme à homme, seul l'enseignant peut communiquer sa foi dans la science. Encore faut-il qu'il l'ait. Encore faut-il qu'il l'ait et qu'il l'ait pratiqué. Et à ce sujet, d'ailleurs, Bon, je n'ai pas les chiffres en France, mais je ne peux m'empêcher d'avoir une certaine inquiétude quand je vois que 80% des élèves professeurs d'école dans les IUFM sont des femmes. Si en France l'attitude des femmes par rapport aux sciences est aussi plus négative que celle des hommes par rapport aux États-Unis, nous pouvons bien entendu avoir des problèmes. Mais pour ce qui est de l'utilisation des médias, je pense que c'est un outil que l'enseignant peut et doit montrer à ses élèves pour enrichir son cours, élargir le champ de ses investigations, tout en lui apprenant à s'en servir, parce qu'il est bien évident que ce qu'on voit sur Internet, il y a à boire et à manger. Cela étant, il y a d'excellents portails scientifiques, je vous citerai celui de la NSF, bien sûr, qui est certainement un des meilleurs, où vous avez tous les chiffres, notamment sur ces fameux indicateurs, et également des nouvelles, enfin c'est un probablement le mieux fait aujourd'hui des portails scientifiques.
Monsieur là-haut.
Bonjour. Alors, oui, je suis là-haut. Bonjour. J'ai bien aimé votre conclusion justement sur la science passion, mais il y a quand même un paradoxe aujourd'hui sur cette perspective, parce que on est à une époque quand même où la science est de plus en plus appliquée et il y a un gros besoin de productivité. Donc la place de l'exercice des sciences fondamentales avec des recherches où on a le temps, où on n'est pas pressé justement par un résultat, etc., a quand même moins de place. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident maintenant d'avoir ça. Et en même temps, je pense que les jeunes dont je fais partie, on a quand même cette image d'une science où il faut cavaler, où on n'a plus trop le temps de s'attarder, d'observer, etc. Donc, la question que je poserais, c'est est-ce que dans l'enseignement, en plus de modules d'expérimentation que je trouve très très important, est-ce qu'on pourrait pas aussi introduire des modules d'histoire des sciences qui permettraient justement de bien voir la transition et puis de voir ce qu'on peut attendre de la science maintenant par rapport à avant, parce que on n'a plus, enfin il n'y a plus les grands penseurs du début du siècle, Einstein, etc. On n'est plus dans cette époque là non mais c'est vrai, on se dit, tiens, la science, ça fait rêver, tiens, il y a des gros bouleversements conceptuels. On est plus dans quelque chose où il y a des avancées technologiques très spectaculaires, mais conceptuellement, Donc,
je vous laisse la responsabilité de vos, derniers jugements. Je voudrais simplement répondre deux choses. Sur l'histoire des sciences, c'est évident. Enfin, je crois que j'avais été explicite, c'est comme ça que on doit montrer la dimension sociale, l'aventure humaine de la science, et en se référant à son histoire. Je voudrais vous reprendre également sur un point, un autre point sur lequel je ne suis pas d'accord, lorsque vous dites que, la science, on ne peut plus prendre son temps. Il y a quelques dizaines d'années, je faisais de la recherche fondamentale aussi. Je peux vous garantir qu'il ne fallait pas roupiller parce qu'il y avait le MIT ou Stanford qui s'empressaient de publier avant vous. Bon. Donc, de toute façon, il faut toujours foncer. En plus, je dirais, alors ça pour l'avoir vécu personnellement, que la science appliquée, l'application des sciences, même le développement, peut susciter les mêmes satisfactions personnelles ou les mêmes jouissances, la même passion que la recherche fondamentale. Moi, je l'ai vécu par expérience. J'étais encore assez jeune à IBM quand j'ai fait partie de la poignée de gens, on était peut-être une demi-douzaine, qui a été à l'origine d'un d'un breakthrough technologique qui est la mémoire virtuelle, la machine virtuelle, etc. Bon. Je me suis battu parce que je voulais le faire adapter cette technologie par IBM pour tous les produits mondiaux d'IBM. Et je me suis battu comme un fou parce que je voulais avec passion. Avec passion. Donc, si vous voulez, la passion n'est pas nécessairement uniquement dans la recherche fondamentale.
Je suis là. Je voulais simplement poser deux questions, mais peut-être juste avant, vous me montrez un petit peu gêné, peut-être parler au nom de Montpellier, où il y a donc une visioconférence univoque, un petit peu gêné par l'autosatisfaction là, de l'Université de tous les savoirs, parce que venant de banlieue, ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver après que les portes de l'amphi soient fermées. Et c'est effectivement assez, assez pénible, alors qu'effectivement, il y a des moyens techniques de dupliquer en temps réel, etc. Alors, les deux questions. Premièrement, vous avez dit l'enseignement des sciences forme les citoyens plus critiques, plus sceptiques. Moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est le pourcentage élevé, en toute proportion gardée, donc de scientifiques dans certaines sectes, et qui semblent d'ailleurs au tout venant peut-être un petit peu plus encore ésotériques que les autres, si vous voulez. Je poserai après ma seconde question.
Alors, cette histoire des sectes, je ne vous ai pas cité, parce qu'évidemment, des indicateurs, il y en a énormément. Il y a des indicateurs qui regardent la proportion de gens, des indicateurs, les fameux indicateurs NSF, hein, qui regardent la proportion de gens qui consultent régulièrement ou épisodiquement des rubriques astrologiques. Et la proportion aux États-Unis est, je ne rappelle plus, chiffre de mémoire, entre 30 et 40%, bon, ce qui est quand même un peu beaucoup. Et alors, bien sûr, on fait des recoupements par niveau, par âge, par sexe, etc. Bien sûr, cette proportion est très élevée pour les bas niveaux d'éducation, et elle baisse au fur et à mesure qu'on monte dans les niveaux d'évocation, cela étant, elle baisse, mais elle ne s'annule pas. Donc, ça doit se placer dans un autre domaine.
Alors, la deuxième question, ça portait sur le concept d'épistémologie et de complexité. Si vous voulez, a priori, c'est des termes que vous n'avez pas du tout présentés, qui peuvent pourtant à la fois aider à la compréhension de différents phénomènes sociaux, et donc présenter la science comme un outil, y compris dans d'autres domaines que les sciences dures. Ça m'a un peu étonné.
Non, mais vous avez raison. Je le mettrai sur le texte écrit. Je vous remercie.
Tout à l'heure, vous proposiez d'enseigner grâce à l'informatique de manière à apprendre à manier l'outil informatique. Je trouve que l'idée peut séduire. Mais vous ne trouvez pas que ce serait comme si on voulait tout enseigner en anglais de manière à apprendre l'anglais ?
Monsieur Gates ne serait pas milliardaire s'il fallait faire 10 ans d'études pour utiliser Word et Windows. Donc, l'outil informatique de base est quelque chose qui est extrêmement simple. Extrêmement simple à apprendre à utiliser. C'est pas ça, il n'y a pas de comparaison avec avec l'anglais. Alors.
Monsieur, oui, allez-y.
Ça marche. Oui, bonsoir. Moi, je m'attache à un problème un peu séculaire qui l'est tellement d'ailleurs que j'ai l'impression qu'on oublie complètement. Est-ce que les chercheurs actuellement se posent quand même le problème que je qualifierais de fondamental, qui est par exemple de donner à bouffer à tout le monde sur les 50 prochaines années. Est-ce qu'il y a des questions prioritaires comme celle-ci, donner à manger par exemple à 2 milliards d'êtres humains, ou bien traiter le problème du trou d'ozone dans le cercle polaire arctique? Est-ce qu'il y a des priorités sur ces programmes-là, ou bien le tout concurrentiel et le tout profit est-il un principe qui régit également la recherche scientifique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut aller aussi vite que le MIT, etc. Alors cette course-là ne vous rend-elle pas aveugle? Ça sera ma première question. Et deuxièmement, devant le problème des budgets, alors les décideurs scientifiques qui budgètent, pourquoi ne mettent-ils pas plus d'argent, par exemple, dans l'éducation pour la recherche contre, par exemple, les toxicomanies nouvelles, ou les autistes, ou la muscoviscidose, qui sont des secteurs non productifs, et encore une fois, on arrive au même problème, les secteurs non productifs, les budgets diminuent. Alors, voilà, en gros, ma question.
Là, j'allais, enfin les applaudissements me font changer un petit peu ma réponse parce que j'allais dire que bon, c'était pas le sujet de c'était pas le sujet de l'enseignement des sciences. Hein, bon, bon, cela étant, si vous voulez mon avis, sur la question, bon, il y a beaucoup de programmes de recherche. Qui s'intéressent à la faim dans le monde, et notamment des programmes de recherche privés. Je pense à Monsanto. Bon, absolument. Monsanto s'intéresse au... Bon. Si c'est le privé qui paye, tant mieux. Non, bah, sur la faim dans le monde, je suis d'accord avec vous, il y a un marché, donc il y a des recherches. Mais ce n'est pas la responsabilité du chercheur, c'est des politiques. Par contre... Le problème des maladies orphelines est un problème très sérieux. Je crois quand même qu'il faut signaler que les compagnies pharmaceutiques, les groupes pharmaceutiques dépensent plus d'argent pour les tests de mise sur le marché que pour le... Mais beaucoup plus, hein, le facteur, le bien supérieur. Que pour développer de nouvelles molécules. Et donc, beaucoup de gouvernements ont considérablement simplifié la mise sur le marché des médicaments pour les maladies orphelines, de manière à diminuer les coûts, alors en prenant des risques, évidemment. Bon, enfin, souvent, ces maladies orphelines, c'est maladies extrêmement graves, mortelles, etc. Bon, donc, ça vaut le coup de prendre des risques. Et pour faciliter la mise sur le marché, et on voit maintenant apparaître un certain nombre de médicaments. Donc, alors, monsieur, moi, je suis un optimiste, j'ai la foi du charbonnier dans la science, le progrès scientifique, etc. Bon, alors, évidemment, on peut avoir une vue, plus pessimiste, mais je pense que, moi, je fais confiance dans la science, je fais confiance dans les dirigeants, et je vois que, au moins dans votre cas, vous êtes, en tant que citoyen, suffisamment conscient des problèmes scientifiques pour pouvoir peser sur vos élus, pour prendre des décisions dans le sens que vous préconisez.
On va prendre encore 3 questions, monsieur, et puis 2 autres là-bas.
Regrettez le manque d'interdisciplinarité. Vous avez donné les arguments, et ils sont d'ailleurs connus. D'un autre côté, vous dites qu'il y a trop de sujets traités superficiellement. Est-ce que cela s'oppose ou non ?
Non, attendez, je ne sais pas comment j'ai dit. J'ai peut-être, ce que je voulais dire, c'est que je crois qu'il vaut mieux approfondir moins de sujets, quitte à laisser les autres un libre parcours d'élève par la curiosité, par la lecture, etc., que de couvrir tous les points d'un programme interminable. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants dans cette salle qui... au mois de mai, quand se s'arrache les cheveux en disant comment est-ce que je vais faire pour terminer. Donc c'est ça que je voulais dire, parce que si on approfondit sur un certain nombre de points, on acquiert, on comprend les mécanismes de raisonnement, d'inférence, et on est capable, en principe, de mieux s'informer sur d'autres. C'est ça que j'ai voulu dire. Et l'approfondissement peut très bien être, au contraire, apporter une pluridisciplinarité, en partant, par exemple, même de linguistique, déboucher sur de la statistique.
Alors, je ne sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière, il y en a deux là. D'accord, la dernière.
Vous citiez tout à l'heure la main à la pâte. On peut trouver aussi des expériences identiques en collège. On commence à essayer d'en faire en lycée. Néanmoins, les programmes sont un peu polarisés par la crème, par la réussite, par Maths Sup, Maths P, qui
eux-mêmes...
Pourtant, il y en a de moins en moins qui viennent en Massup.
Pour qui eux-mêmes, donc, sont polarisés par les concours. Donc, quelque part, vous êtes la fine pointe de l'enseignement scientifique. Et ma question est la suivante. Qu'est-ce que fait donc cette grande école que vous dirigez, Supélec, dans ces concours, dans la nature de ces concours, dans la nature de ces questions, pour essayer de réformer par le haut, cette fois-ci, et non plus par l'école élémentaire, l'enseignement scientifique?
Attendez, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris
qu'est-ce
la question.
Qu'est-ce que fait Supélec dans la nature de ces concours, dans la façon dont il les conçoit, pour réformer par le haut l'enseignement scientifique, laisser place à la passion, à l'inventivité, évaluer plus des compétences essentielles et peut-être moins ce qu'il est facile de mesurer.
D'accord, pardonnez-moi. Bon, attendez, moi, je vais vous dire, vous parlez en tant que patron d'école et la manière dont je vois les choses. Bon, j'ai une responsabilité vis-à-vis de l'État, des élèves, des ministères. Ma responsabilité, l'État me confie la fine fleur de l'intelligence française, suivant certains critères, qui sont ce qu'ils sont, qui sont très français d'ailleurs, c'est des jeunes qui savent des choses, qui savent travailler, qui ont la tête au moins bien pleine, parfois bien faite, je les sélectionne sur ces bases-là, c'est-à-dire sur les bases pour lesquelles ils ont été produits. Bon. Après, on me demande d'en faire en plus des gens qui sont imaginatifs, inventifs, qui sont capables de réaliser, qui écoutent, qui tiennent, qui sont capables de travailler en groupe, à plusieurs, qui peuvent exposer, etc. Bon, ça c'est mon boulot. Je les garde 3 ans. Je reçois des subsides du ministère pour les former pendant le passé d'ailleurs, pour les former pendant 3 ans. C'est comme ça que je justifie l'argent que je touche. J'ai toujours été opposé à la théorie qui tente à dire qu'il faut sélectionner des gens qui savent déjà réaliser, qui savent déjà. Alors, à quoi je sers, moi? Je crois que le système éducatif français, il a des défauts. Il a des défauts, mais il a des qualités. Et une de ses grandes qualités, c'est la formation des élites. Et c'est comme ça, c'est une tradition française, probablement due au jacobinisme, l'État a toujours eu besoin d'élites pour se gérer, donc il y a une grande tradition française de formation des élites, qui est reconnue à l'étranger. Les French engineers sont très connu et très coté aux États-Unis. Alors, les Américains, ils n'y comprennent rien. Le système Grandes Écoles, Classe Préparatoire, ils sont complètement paumés. Mais quand ils voient passer un French ingénieur, ils l'embauchent d'abord et puis ils verront après ce qu'ils lui donneront à faire. Parce qu'ils savent qu'il est nettement meilleur que les autres. Donc, moi, je m'insère. Je suis un maillon du système de formation des élites français. J'en profite du mieux que je peux en sélectionnant les meilleurs sur les bases pour lesquelles ils ont été préparés. Je cultive des qualités qui maintenant n'ont jamais été cultivées. Alors maintenant, je vais quand même vous ajouter une chose, c'est que je recrute. Et j'ai même augmenté la proportion pendant mon règne, si j'ose dire. Je recrute 30% de mes élèves depuis des filières autres que le concours, depuis des filières universitaires, des DEUG, des maîtrises, des universitaires étrangers. Et pourquoi? Pour assurer la diversité. C'est vrai que la prépa, ça met un petit peu la tête au carré. Et comme dit Saint-Exupéry, si tu diffères de moi, tu m'enrichis. Donc une diversité dans les populations est une richesse pour l'école, et puis parce que les non-taupins ou les ex-universitaires ont des qualités que n'ont pas les taupins, et qui sont très appréciées des industriels. Je vous donne juste un exemple et je m'arrête là. Très peu de... Ça augmente un petit peu ces temps-ci avec les start-up, mais jusqu'à il y a quelques années, très peu de Supélec, comme la plupart des élèves des grandes écoles, allaient dans des PME, 4 ou 5%. Bon. Mais je me suis aperçu que si je regardais la proportion des taupins, c'était 2 ou 3% à peine, et si je regardais la proportion de ceux qui étaient rentrés par les filières parallèles, c'était, je ne rappelle plus les chiffres, ça devait être 30, entre 30 et 40%. Beaucoup plus. Mais finalement, ce n'est pas étonnant. Parce que les gens que je recrute depuis le DEUG, par exemple, c'est les meilleurs DEUG des meilleures universités, c'est des gens qui auraient très bien pu faire prépa. S'ils n'ont pas voulu faire prépa, c'est parce qu'ils n'étaient pas prêts à accepter la règle, la discipline, etc. Et finalement, ce qu'on cherche dans les PME, bah, c'est des gens justement qui veulent casser la baraque, qui sont... bon. Et par opposition, les taupins, la taupe, la prépa, est probablement la meilleure formation à réussir dans une grande entreprise, parce qu'on apprend en taupe à se distinguer à l'intérieur d'un cadre strict, d'une discipline extrêmement contingentée, et à se distinguer quand même, à être meilleur que les autres sans casser la baraque. Ben, c'est exactement ce qu'on demande dans une grande entreprise. Il ne faut pas casser la baraque, mais il faut faire mieux que les autres.
Alors, notre dernière question.
Donc, bonsoir. Donc, prenant conscience de la nécessaire dimension éthique de l'activité économique, les grandes écoles de commerce ont développé des cours d'éthique dans leur cursus. Qu'en est-il des écoles scientifiques quand on sait l'importance de la dimension éthique dans les décisions scientifiques? Merci.
Bon, alors écoutez, moi je peux vous parler pour Supélec. Je n'ai pas fait de cours d'éthique parce qu'il fallait que je le prenne à l'électrotechnique, mais chaque professeur est chargé de faire passer l'éthique de la science et l'éthique de l'entreprise aux élèves. L'éthique de la science, c'est-à-dire l'honnêteté intellectuelle, l'ouverture, l'humilité devant les faits, je l'ai dit. L'éthique de l'entreprise, répondre aux besoins du client, tenir les délais, limiter les risques. Bon, et les élèves savent qu'ils sont jugés sur ces critères-là quotidiennement, et je pense que sur le plan pédagogique, je ne suis pas pédagogue, mais je pense que sur le plan pédagogique, c'est mieux que de venir s'asseoir à un cours d'éthique et puis à faire un examen d'éthique, après quoi on ne fait plus d'éthique pour le reste de ses jours. Merci.